qui arrive ne soit très longue et très compliquée pour nos amis vignerons, mais pas uniquement, aussi pour tous les gens qui produisent notamment des fruits.
Les arboriculteurs,
parce que
oui.
Les arbres fruitiers sont en fleurs, la vigne a très avancé son cycle végétatif. Pour l'instant, on a l'air de passer à côté de la catastrophe, mais il y a près de 10 jours à tenir. Ça va vraiment être difficile pour les vignerons et j'ai une grande pensée pour eux, parce que vous savez, les bougies, c'est à 2h du matin qu'on les allume.
Absolument, on pense à eux et on les remercie d'être aussi nombreux à nous écouter, les vignerons. On a plein de retours, effectivement, de la part des viticulteurs dans toute la France, parce que c'est vrai que c'est une émission dans laquelle on parle de vin, ici. On n'a pas peur de parler des domaines, des appellations et on défend le vin, absolument.
Mais Emmanuel, un peu trop, peut-être.
Non, ça, c'est le matin. Emmanuel Rubin, votre goût de la semaine.
Eh bien, on n'a pas peur non plus de défendre l'Angleterre. Mon goût de la semaine, c'est un certain goût de l'Angleterre, mais à Paris. Dans la rue la plus anglo-saxonne de la capitale, tout près de l'Opéra, c'est la rue Donou. C'est là qu'on trouve le fameux Harris Bar. Et depuis quelques jours, un restaurant qui s'appelle Public House. Public House, c'est l'autre nom que l'on donne au pub. Et le chef, qui est un Anglais qui débarque donc à Paris, il a compris qu'il faisait encore froid et que le feuilletage revenait beaucoup à nos tables. Vous le savez, les pâtés croûtes, les vols au vent.
Les
et
pailles.
Les pailles, et justement. Il fait toute une cuisine autour de la paille, c'est-à-dire de la tourte, en vérité. Alors, je les ai toutes testées. Et je vais vous les donner parce qu'en vérité,
dans l'ordre,
ça pourrait vous donner une idée. Alors, imaginez une bonne tourte, hein, c'est donc une feuilletage fermée. Alors, vous pouvez la garnir, chez lui, comme chez vous, de pommes de terre, de cheddar maturé, de sauce persil, d'oignons caramélisés.
Ah oui.
Ou bien de volaille avec champignons, pommes de terre, estragon. Très réussie celle-ci, très british. Bœuf braisé mijoté à la Guinness, os à moelle, céleri, carotte. Ça, c'est une version un peu outre-manche de notre vol au vent. Et puis alors la dernière, beaucoup plus chic, homard, fenouil confit, pommes de terre. Ce qui est intéressant, c'est que vous y allez et vous allez directement à la tourte. Pourquoi ? Parce que d'abord, elle est généreuse. Et puis surtout, elle oscille entre 19 euros et 25 euros. Ça vous fait en vérité pas cher le repas. Et croyez-moi, le rapport qualité, quantité, créativité, prix, il y est.
Et on est rassasié.
Et on est rassasié.
Redites le nom de cette
Public House.
Et ben voilà, très
et vous
bien.
Laurent, un goût un peu plus léger peut-être.
Oui, exactement. Grâce à notre ami Yves Candebord, le goût de l'asperge verte et du pamplemousse, figurez-vous. Parce que je viens de faire, je vous le dis en exclusivité, chers auditeurs d'Europe 1, des vidéos pour vous que vous pourrez retrouver sur tous les réseaux sociaux d'Europe 1. Je me suis inspiré des recettes de nos grands chefs et pour les simplifier et les faire à la maison. Et on a fait avec Yves Candebord une recette qui a marqué vraiment la bistronomie, ce nom que l'on doit à notre camarade Sébastien Demorand. Et il avait fait une recette où il s'amusait à revisiter l'asperge avec la sauce hollandaise. Vous savez, la sauce hollandaise, c'est
un grand classique.
Un grand classique, c'est un peu comme une béarnaise avec du citron. Et à la régalade, quand il a lancé la bistronomie sans le savoir, Yves Candebord, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les asperges vertes qu'il a cuites, comme ça, simplement un petit peu à l'eau, un pamplemousse avec des zestes et des quartiers de pamplemousse, et il a réuni tout ça pour retrouver avec un œuf poché, le goût de la hollandaise. Et c'est vrai que, on va dire que c'est très à la mode de parler de ça, mais c'est une hollandaise déconstruite.
Ouais. Ouais, déstructurée, comme on dit.
Oui, sauf qu'en vérité, quand même, dans le plat, elle a de la rondeur. Ouais. Ça part pas dans tous les sens de l'assiette, tout ça est bien gourmand.
Et on a fait cette recette pour vous, chers auditeurs d'Europe 1, vous la verrez d'ici quelques jours sur les réseaux sociaux d'Europe 1. Guettez bien cette histoire. J'en profite pour vous dire que la Libre Antenne, c'est tous les soirs sur Europe 1, week-end compris. D'ailleurs, ce soir, juste après le journal de 22h, c'est Valérie Darmon qui vous écoute. Si vous souhaitez témoigner et partager votre expérience, vous laissez vos coordonnées en appelant Europe 1 au 01 80 20 39 21. On va parler du petit déjeuner avant de parler des beaux métiers de la salle. Plutôt sucré ou salé le petit-déj, Olivier ?
Bah, comme je venais ici ce matin, j'ai rien pris, figurez-vous. Oui. J'ai laissé de la place.
Et bah, il y en aura, vous avez bien fait. Et vous, Emmanuel, salé ou sucré le petit-déj ?
Plutôt café,
oui. Donc, il n'y a pas de solide pour l'instant. Et bah, on revient avec du solide dans un instant.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariette.
Merci pour votre fidélité, chers auditeurs. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter tous les samedis et ça nous fait plaisir. La table est grande. Oui, on met des rallonges. J'adore ça. Déplier les rallonges. Avec le francilien Emmanuel Rubin ce samedi et le belge Olivier Pouls. C'est encore l'heure du petit déjeuner à notre table aujourd'hui.
Brunch presque là. Hein.
Oui, c'est vrai que c'est l'heure du brunch. Oui, petit déjeuner tardif, mais on est plus dans le brunch.
Grasse matinée.
Ah oui, on
se réclame.
C'est oui, oui, absolument. Comment ça se passe chez vous, le petit déjeuner, Olivier?
C'est scindé entre la semaine et le week-end. Je vous avoue que la semaine, j'ai pris l'option de ne pas prendre de petit déjeuner, considérant que j'avais emmagasiné suffisamment de calories durant la journée, que je faisais ce qu'on appelle un petit jeûne intermittent,
oui,
voyez-vous.
C'est ça.
Mais le week-end, c'est vrai qu'on aime bien avoir un autre rythme. Et moi, je suis plutôt petit déjeuner salé.
Oui. Œuf à la coque, œuf brouillé.
Alors moi, il y a un truc que j'adore, c'est les œufs bénédicts.
Ah, ça c'est bon.
Ça prend un peu de temps. Mais alors ça, c'est quand même vraiment, vous savez, c'est une sauce hollandaise.
Hein, absolument.
On en parlait tout à l'heure avec les asperges. Des œufs mollets ou normalement des œufs pochés. Une petite tranche de pain toasté, un peu de saumon fumé ou un peu de jambon.
Ou un lard grillé.
Oui.
Le petit déjeuner de Monsieur Rubin.
Idem. Pas la semaine, pas le week-end. Moi, il faut que je sois à l'hôtel, en vérité. C'est-à-dire très rarement. Mais quand je suis à l'hôtel, j'adore justement aller petit déjeuner parce que, comme vous le dites, tout est prêt. Et qu'encore une fois, on a le choix.
Mais c'est vrai qu'à l'hôtel, on a un rapport au petit déjeuner qui n'est pas du tout le même.
Et on y pense même avant de s'endormir.
Mais c'est ça. Mais du coup, moi, quand je suis à l'étranger ou comme ça, je décale vachement mes repas parce qu'on prend un petit déjeuner, dans ce cas-là, peut-être tardif. Et le déjeuner, on va le prendre plus tard parce que le petit déj est tellement copieux. On se jette sur un œuf à la coque. On va prendre, comme vous le dites, peut-être des œufs bénédicts pour accompagner.
Mais je me suis vu, moi, manger des sushis.
Oui. Ah oui, mais évidemment, suivant les traditions, suivant les pays, on peut manger de tout.
Ouais, vous allez n'importe quoi.
Non, mais vous allez en Chine, par exemple. En Chine, vous n'aurez pas de croissant, de pain au chocolat. C'est à cette heure-là qu'on mange des dim sum, par exemple.
Exactement.
C'est ça. Et c'est délicieux de manger des dim sum au petit déjeuner.
Chaque pays a sa religion,
tradition,
ouais, exactement.
Bien sûr.
Alors, ici, ça embaume la viennoiserie au sud de Coluche. Nous avons des petits pains au raisin, des chaussons aux pommes, des croissants, des pains au chocolat. Il y a aussi des pains viennois. On va en parler dans un instant, mais juste avant, direction la boulangerie Pierre Arnaud à Asnières-sur-Seine. Marion Sauveur, qu'on retrouvera tout à l'heure autour de cette table. Eh bien Marion, elle a voulu savoir ce qui constituait votre petit déjeuner. On vous écoute.
Bonjour.
Un pain au chocolat pour bien commencer la journée, c'est toujours bien.
Croissant, pain au chocolat et baguette et beurre pour moi. Ça reste un plaisir d'avoir le pain frais. Sur du beurre, ça reste ma drogue pour le petit déjeuner.
Un gâteau.
Alors, généralement, je prends du pain au petit épeautre avec soit du beurre quand c'est jour de fête, soit de l'huile de coco avec des œufs à la coque et un thé.
C'est un rituel, donc le café, un verre de lait, une tartine avec du beurre et une confiture que je choisis différentes tous les mois. Alors là, c'est plutôt montagne, donc myrtille.
Un petit déjeuner très léger, c'est juste un café serré, italien, et puis un yaourt.
Moi, mon petit déjeuner, c'est l'aspect convivial d'aller à la boulangerie. Et
oui.
Les viennoiseries sont réservées à ma mère, qui est une femme extrêmement âgée. Pour elle, c'est très important.
Moi, j'ai élevé mes enfants pour qu'ils aillent chercher les viennoiseries ici. Ouais.
Alors, qu'est-ce qu'ils vous ramènent généralement?
Ce qu'ils veulent. Le pain suisse, le rannais, le pain chocolat et amandes. Ils découvrent tout et c'est tant mieux.
Merci beaucoup, passez une bonne journée.
Bonne journée, messieurs. Là, c'est vrai que nos boulangeries sont de véritables cavernes d'Ali Baba. Le monsieur le disait, une viennoiserie pour sa maman. C'est du lien social aussi, la boulangerie.
Il est d'autant plus sincère, ce monsieur, que c'est ma boulangerie à Asnières.
C'est vrai.
Car je suis Asnières-Rois et je vais à cette boulangerie.
Et ben voilà.
Mais c'est vrai ce qu'il dit.
Moi, c'est pas vous qu'on entend d'ailleurs.
Le petit vieux. Merci. Merci.
Continuez.
Non, mais sincèrement, ce que disait le monsieur est vrai. Je l'ai dit, hein, moi, la semaine comme le week-end, j'ai du mal à des petits déjeuners. Mais aller chercher les croissants, le pain pour les autres et pour la famille, ça me fait plaisir.
Et alors, les Français ne plaisantent pas avec le petit déjeuner. On vient de l'entendre, mais on a des chiffres aussi, Emmanuel.
Alors, selon une étude OpinionWay pour HelloFresh, c'est assez étonnant. 45% des Français affirment que le petit déjeuner est leur repas préféré. Alors, pour ces Français, 67% prennent un petit déjeuner tous les jours et 7% jamais. Un peu comme notre ami belge.
Oui,
mais il n'est pas ça. Français, il est belge. La majorité de ces Français préfèrent un petit déjeuner traditionnel. Pour 75%, alors c'est quoi un petit déjeuner traditionnel? Tartines, beurre, œufs, confiture, jus de fruits frais, boissons chaudes. Suivent ensuite les amateurs de viennoiserie, avec pain chocolat, croissant, chouquette. Là, c'est à peu près la moitié des Français qui finalement versent dans la boulangerie. Et puis un quart d'entre eux mangent des fruits. Il y a encore du travail. Suivent ceux qui préfèrent les céréales, Là, faudrait voir, parce que peut-être que les enfants...
Les céréales reviennent en force, non mais ouais. Les céréales brutes même, hein, quoi. Ouais. Quand on va mélanger des amandes et des noisettes, par exemple, pour faire un petit granola maison dans un fromage blanc.
Enfin, pour 15%, le salé sans mel avec œufs, fromage, saucisse, bacon, haricots. Et ça, c'est impressionnant.
Mais vous savez, en fait, il y a un problème de dualité dans le choix du petit déjeuner. Si vous prenez un petit déjeuner plaisir, on a cité tout ce qui allait bien, le problème, c'est que c'est pas extrêmement bon d'un point de vue diététique, parce que ça vous fait des pics de glycémie.
Exactement.
Et qu'en général, à 11h15, 11h30, vous avez un coup de mou et une dalle pas possible.
Il faut pas le prendre trop tôt par rapport au réveil, en fait. Il faut laisser passer 2 heures avant de prendre un petit déjeuner.
Bah, justement, c'était un problème des Français qui ne petit déjeunaient pas.
Aussi.
Et on disait que c'était le meilleur repas de la semaine.
Parce que ça fait monter le sucre, monter la glycémie, y compris le jus d'orange frais qu'on nous vante comme étant excellent.
C'est des morceaux de sucre plein pot.
Ce qui n'est pas faux, parce que quand tu vois tous les pays qui pratiquent vraiment le breakfast et le petit déjeuner, ou frustiquent allemand.
C'est du salé.
Tout le reste de la journée, quand même, ils snackent à mort.
Oui,
ces gens-là, ils déjeunent pas, mais alors ils vont bouffer toutes les 2 heures.
Et on en parlera tout à l'heure, justement, de l'importance du petit déjeuner avec Marie Drucker. Alors, ça peut paraître étonnant, mais elle vient d'écrire un livre qui s'appelle « Bien manger pour être en forme ». Et je vous assure qu'elle a vraiment étudié le sujet. Elle est entourée de spécialistes pour
ce livre.
Elle
est en forme, d'ailleurs.
Et elle est en forme, on en parlera tout à l'heure,
parce
qu'elle a des choses intéressantes à nous raconter. On va s'intéresser aussi, je vous l'ai dit, au métier de la salle, chers auditeurs d'Europe 1, le flambage. Nous aurons un maître d'hôtel avec nous qui va faire une démonstration. Il va flamber au studio Coluche dans un instant. Mais juste avant, j'en profite pour vous rappeler que nous jouons avec un bruit de cuisine, comme tous les samedis à cette table. Aujourd'hui, Europe 1 vous offre une cave à vin, la Sommelière, la marque française qui accompagne depuis plus de 30 ans les professionnels de la restauration. Une cave à vin LS18 Silence, 18 bouteilles, qui vous aidera à conserver à température idéale vos meilleurs vins et les mettre à dégustation. Écoutons ce bruit de cuisine. Ah là là, ah oui, ça facile,
ça fait des frissons,
ça grince, ça couine.
Facile.
Vous avez trouvé pour jouer avec nous, envoyez un SMS avec le mot cuisine au 739-21, 3 fois 75 centimes, plus le coût du SMS. Dans un instant, je vous l'ai dit, on va faire l'éloge du service en salle. Et vous savez quoi? J'ai justement posé la question avant-hier à Guy Savoie, élu meilleur restaurant du monde, quelle place il accordait au service? Bah tiens, on l'écoute avant de lancer le sujet.
Comme en cuisine, le service, c'est l'œuvre d'une équipe. On doit à la fois avoir l'œil, à la fois sentir les choses, ne pas avoir la même attitude avec un couple qui a plein de choses à se dire et deux personnes qui n'ont rien à se dire.
Oui.
Le service, je le résumerai de la manière suivante. Vous avez appris à l'école que la fourchette est à gauche, le couteau est à droite. Ce que je vous demande de remarquer tout de suite... c'est si le convive est gaucher, est de faire le contraire.
Et
si vous avez repéré ça, dès l'arrivée du convive, vous allez tout voir.
Il faut être attentionné. Merci Guy Savoie pour ces belles paroles. Et on décrypte justement le service en salle avec un maître d'hôtel qui sera avec nous dans un instant, et pas des moindres, c'est celui du Taïwan, dites donc. A tout de suite sur Europe 1.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariotte.
Nous sommes en cuisine et à table jusqu'à midi et demi sur Europe 1. Bienvenue si vous nous rejoignez avec le critique gastronomique Emmanuel Rubin et notre monsieur vin, Olivier Pouls. Alors, chers auditeurs d'Europe 1, il y a quelques semaines, je vous ai dit que nous allions nous intéresser au service en salle. Hein. On parle beaucoup de la cuisine à cette table, mais les métiers de la salle sont aussi vitaux au fonctionnement d'un restaurant. On l'entendait juste avant la pause avec Guy Savoie. Eh bien, chose promise, chose due, ce matin, on se met à table. Et on le sait, pas de bon repas sans un bon service. Emmanuel Rubin, vous qui fréquentez les belles tables de France et de Navarre, est-ce que vous avez le souvenir, tiens, d'un service inoubliable?
Alors j'en ai un, mais il n'est pas en France. Il est au Hilton d'Amsterdam. Le Hilton où d'ailleurs John Lennon et Yoko Ono ont fait leur fameux bedding, vous savez, dans cette suite.
Ah, c'était à Amsterdam?
C'était à Amsterdam.
Ah oui.
Dans cet Hilton-là, et je me suis retrouvé dans les années 90 à table. Je n'en attendais pas grand-chose, sauf que tout le repas, c'est fait un peu comme on va le voir chez Taïwan aujourd'hui, avec un service essentiellement, une cuisine essentiellement en salle.
Ah
c'est-à-dire
oui.
que chaque plat était servi en salle, et j'y ai découvert un sabayon au champagne monté au fouet en direct, à la minute, à la seconde. C'est ainsi que c'est devenu mon dessert favori.
Ah bah voilà, vous voyez, ça raconte une histoire.
En fait, j'en aurais plein, parce que j'en ai un autre de salle de service.
Bah gardez-le pour
sublime.
Tout à l'heure. Je vais accueillir notre invité, parce que pour parler de cet art du service, nous recevons Baudouin Arnoux, directeur du Taïwan. Bonjour Baudouin.
Bonjour à tous.
Bonjour. Merci d'être des nôtres. On vous applaudit parce
vous
que les auditeurs d'Europe 1 peuvent le voir sur europe1.fr. Vous êtes d'une élégance, un beau costume, un beau gilet, une cravate Prince de Galles. Alors, c'est une tante restauratrice qui vous aurait donné le goût de ce métier,
ouais,
entre autres.
Ouais, hein, exactement.
32 ans d'expérience, vous avez été au Grand Hôtel Intercontinental, au Pavillon Le Doyen avec Christian Lesquer, le Violon d'Ingres avec notre ami Christian Constant qui nous écoute, la Seine au Prince de Galles avec Stéphanie Lequellec, Gordon Ramsay au Trianon Versailles et aujourd'hui directeur du Taïwan depuis 4 ans.
Exactement.
Quel beau CV!
Oui, ah oui.
Alors, on parle vraiment du service en salle ce samedi matin sur Europe 1 parce qu'on a l'impression qu'il revient en ce moment sur le devant de la scène, ce service en salle. Ce que racontait Emmanuel.
Oui, le service en salle aujourd'hui reprend de l'importance parce qu'on retombe aussi sur une génération de chefs où ils veulent qu'il y ait un échange entre la salle et la cuisine. On a eu l'époque où on avait dressé beaucoup de choses à l'assiette parce qu'on voulait que ce soit des choses minutieuses, précieuses, très bien présentées. Et puis aujourd'hui, on s'aperçoit qu'en salle aussi, avec le personnel, pour remotiver aussi un peu notre métier et redonner un peu de blason, on remet tout ce qui est découpage et flambage. Il y a des maisons telles que le Taïwan où c'est toujours resté, c'est une institution française. Et puis dans les écoles aussi, on essaie aussi de redorer un peu ce métier-là pour attirer les jeunes et leur montrer que c'est pas juste poser une assiette sur table et dire ce que c'est dans l'assiette.
Plus de 30 ans de service en ce qui vous concerne, cher Baudouin. Est-ce qu'il y a un souvenir marquant qui vous raconte l'art du service ou qui raconterait l'art du service à nos auditeurs?
Moi, en souvenir marquant, oui, c'est le premier grand restaurant que j'ai fait avec mes parents où j'ai vu un maître d'hôtel qui nous avait fait justement une démonstration de découpe de viande qui était une côte de bœuf à l'époque, même si ça paraît pas grand chose, mais le fait de le faire à table devant les clients, d'abord ça permet de créer un échange. On se sent tout de suite un peu isolé, on se sent un peu VIP, comme je dis, parce qu'on a l'impression qu'on s'occupe que de nous.
C'est vrai, oui, exactement, il y a de l'attention. Et puis, c'est comme la radio, c'est avec le direct, c'est la même chose. Il y a une sensation de proximité, d'immédiateté, puisque vous découpez devant nous les choses qui viennent juste d'être cuites. Alors, je voudrais signaler un livre qui s'appelle « Éloge du service en salle » chez Menu Fretin, écrit par Valérie Vrina, qui est la fille de Monsieur Taïwan, si je puis dire, et Jean-Marie Ancher. Et alors, c'est amusant parce qu'elle raconte une scène dans ce livre. Et elle dit, c'est en observant les mimiques de mon grand-père André Vrina que Louis de Funès peaufina son personnage de directeur dans le film Le Grand Restaurant. Mon grand-père avait un tic qui consistait à faire un petit bruit avec sa langue pour attirer l'attention d'un commis au bord de l'erreur.
Film qui était tourné au Le Doyen, là, pour
exactement,
le coup.
Exactement, oui, on retrouve les grandes maisons parisiennes.
Le Doyen qui, dans le film, s'appelle Septime.
Ouais. Absolument. Olivier, de quand date le métier de maître d'hôtel? On arrive à dater ça?
A priori du Moyen-Âge, le maître d'hôtel était quelqu'un de très richement vécu, avec un bel apparat, portait une épée, un diamant au doigt. Je ne vois pas que vous en avez aujourd'hui, peut-être. Bon, ça viendra. Hein.
J'ai une petite épée.
Voilà. Oui, il avait le bâton de vermeil. Il travaillait au service du roi ou de la noblesse. Et c'est lui qui gérait en fait le protocole, parce qu'il y avait des protocoles de service, d'organisation, etc. C'était donc ce titre apparaît au Moyen-Âge, le maître d'hôtel. C'est joli quand même.
Vous nous faites l'honneur ce matin, Baudouin Arnoux, de faire une belle démonstration au studio Coluche autour du flambage. Qu'est-ce qu'on va flamber alors?
On va flamber la crêpe Suzette façon Taïwan. Ça permet de mettre l'appellation façon Taïwan, parce que dans les mondes de crêpes, il y a deux mondes. Il y a la crêpe Suzette et la crêpe flambée, qui sont deux préparations distinctes. Et le Taïwan s'est permis de mettre cette appellation parce qu'on fait un mix des deux en fait. On va faire un caramel à sec au départ, dans lequel on incorpore un peu de beurre et jus d'orange.
Eh ben, on vous laisse faire, oui.
Parce qu'à l'origine, c'est à Auguste Escoffier qu'on attribue la création de la crêpe Suzette. Elle n'était pas flambée. Non. Elle était tout simplement préparée avec les mêmes ingrédients, mais on ne la flambait pas en salle. C'est le service en salle qui l'a amené à évoluer un peu plus tard.
Et puis, il y a des maîtres d'hôtel et des adresses qui ont donné leur nom à des plats de prestige. Je pense, on parlait justement de Monsieur Vrina au Taïwan. Il y a le homard flambé et la crêpe Suzette, vous venez de le dire. René Lasserre et le pigeon André Malraux. Oui. Hein. René Lasserre qui était le directeur du restaurant.
Oui, hein. Tout à fait.
Et Delair, l'inventeur du canard au sang, repris ensuite à la tour d'argent dont on parlait.
C'est une époque, là, tous les grands noms de maîtres d'hôtel dont vous parlez, qui sont tous les héritiers du grand Vatel, vous savez, le maître d'office et l'officier de bouche de Condé qui s'est suicidé en attendant la marée,
dit-on. Oui, c'est une belle histoire.
Mais tous ces grands maîtres d'hôtel C'est eux qui faisaient les restaurants dans le 19e au 20e siècle. On n'allait pas voir les chefs. On allait chez René Lasserre, on allait voir Albert Blazer chez Maxim's, qui a donné son nom à la fameuse sole soufflée. On allait voir César Ritz. C'était eux les grands tenants, parce que tout se passait en salle. Les chefs étaient dans la grotte, on les planquait un peu. Après, il y a eu la revanche avec Bocuse dans les années 60-70, où le chef est devenu, lui, la véritable star. C'est peut-être d'ailleurs pour ça que tout a été servi à l'assiette. Mais à l'époque, les grandes stars du restaurant, bien, c'était ceux-là, les Vrina, puis il y en a quelques autres aujourd'hui encore.
Alors, vous venez de faire fondre le beurre avec le sucre pour avoir ce joli caramel. Hein.
En fait, on met un peu de sucre au départ, enfin un peu, ça dépend du nombre de pièces qu'on fait. On y incorpore un petit peu de jus d'orange et de beurre. Et là, ça va monter à température gentiment. Le problème du caramel, c'est qu'il met longtemps à venir, mais une fois qu'il arrive, ça va vite.
Ah oui, il faut être sur le coup, hein, c'est
donc
ça.
On fait ce qu'on appelle le point de chauffe. Il y a toujours un point de chauffe qui va se créer, le fait de travailler avec un bimétal. Et ce point de chauffe, ensuite, il va falloir que je le fasse tourner autour de la poêle, de façon à ce que j'ai pas le côté brûlé qui arrive tout de suite. Mais ce qu'on vient chercher, en fait, avec le beurre, c'est le goût du beurre noisette.
Ah, attention, qu'est-ce qui se passe, Baudouin ?
Là, le caramel est en train de prendre. Vous voyez, on a le côté brun qu'on vient chercher.
Vrai caramel. Français,
un vrai caramel, voilà, parce que ça donne vraiment le goût de la sauce. Ce qui est bon dans la crêpe sucette, c'est la sauce. Hein. La crêpe, elle peut être très bonne, mais la sauce doit être importante. Et là, vous voyez, j'arrive à température et je mets le jus d'orange.
Oh, le beau déglaçage.
Voilà.
C'est un jus d'orange frais.
Oui, c'est un jus d'orange frais, oui.
Oui, c'est pas un
on évite de rapporter trop, à base de concentré. Trop de sucrosité, parce qu'il y a déjà le caramel. Alors surtout, en même temps, j'en profite de parler pour les gens qui nous écoutent. Le plus important pour les crêpes, c'est qu'elles soient un peu sèches. Si vous faites des crêpes, voilà.
Et pourquoi ?
Ben parce qu'en fait, si elles sont fraîches, elles vont s'imbiber, elles vont être caoutchouteuses.
Ce qui arrive souvent. Hein.
Voilà.
Dans les crêpes sucettes de restaurant, c'est un peu mollasson.
Mais en fait, l'anecdote, c'est de les faire la veille.
Voilà, il faut qu'elles soient légèrement rassis.
Voilà. Ouais. Et qu'elles soient sèches, parce que le fait que nous, la crêpe sucette, on va lui apporter une deuxième cuisson. Alors la première cuisson, c'est de la mettre dans le jus d'orange. Et la deuxième cuisson, c'est le fait de faire un long flambage avec le cognac et le Grand Marnier. C'est qu'on va venir cristalliser la crêpe.
Eh bien alors, on vous laisse mettre la crêpe à l'intérieur. On fait une pause et on revient juste après au Studio Coluche avec cette crêpe Suzette flambée devant vos yeux. Et on va s'intéresser, je vous le disais, au restaurant et au service en salle avec la patronne d'une auberge. À tout de suite.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariotte.
Nous revoilà au Studio Coluche, on fait l'éloge du service en salle avec notre invité Baudouin Arnoux, qui est le directeur, le maître d'hôtel du Taïwan à Paris, et on fait des crêpes Suzette. Alors ça y est, vous avez plié la crêpe en quatre, on l'a dit, c'est mieux d'avoir une crêpe de la veille, dans ce mélange de caramel déglacé au jus d'orange. Et là, c'est qu'est-ce que vous allez faire, Baudouin, alors ?
Là, je suis monté à température et je vais servir le mélange de cognac et Grand Marnier, qui va venir ici s'enflammer gentiment, et va permettre de créer une deuxième cuisson au niveau...
Et là, hop, voilà, vous penchez cette belle poêle en cuivre vers le gaz et hop, là, la flamme est dans la crêpe Suzette. Voyez ça sur les réseaux sociaux d'Europe 1, chers auditeurs. On fait flamber les crêpes Suzette. Éloge du service en salle. Ça fait du bien hein, de retrouver ces gestes qui créent du lien et de la proximité et qui remettent en valeur vraiment ces métiers de la salle. On va parler des différents types de services pendant que vous nous servez ces belles crêpes Suzette qu'on va déguster pour vous, chers auditeurs. Il y a plusieurs types de services, hein, effectivement. Il y a le service à la française.
Alors, service à la française,
on rappelle les différences parce qu'on s'y perd parfois.
Il y en a quatre grands. Le premier, c'est le service à la française, s'il vous plaît.
Ah oui.
Les plats sont disposés en même temps, tous en même temps sur la table, ils sont disponibles pour les convives. Et on se sert, nous convives. Le service à la russe, il y a un menu unique pour tout le monde.
Oui.
Les plats vont sortir de la cuisine, on va les installer sur ce qu'on appelle les guéridons en salle pour la découpe. On n'est pas loin de ce que fait monsieur chez Taïwan. On appelle aussi le service au guéridon. Service à l'anglaise, la pâte guéridon, tous les plats sont déjà prédécoupés en cuisine. Et finalement, le service à l'américaine, ça ne m'étonne pas. Il est dérivé du précédent, là, tout est servi à l'assiette. Le serveur arrive directement avec l'assiette, la pose se fait devant vous. L'assiette a été composée en cuisine. C'est celui qui a gagné dans les années 70 avec la nouvelle cuisine. On a d'ailleurs parlé des serveurs comme de porteurs d'assiettes, parce que le métier est en train de disparaître à l'époque.
Et là, il revient justement.
Il revient fort aujourd'hui.
Qu'est-ce qu'elle est belle, votre crêpe Suzette, avec cette sauce, comme vous le disiez tout à l'heure pendant la pause, hein, Baudouin, c'est la sauce, c'est ce caramel nappé de jus d'orange qui vient napper comme
mais
ça.
C'est vrai ce que vous dites, on parle de sauce là.
Exact,
un peu liquide, mais pas trop, c'est nappant, c'est enveloppant et puis c'est parfumé.
Alors le métier de maître d'hôtel se féminise aussi, et bien justement on passe un coup de fil à l'une d'entre elles, c'est Ludivine de Corde à l'auberge de la Vallée à Nassandre, dans l'Eure, en Normandie. Bonjour Ludivine.
Bonjour Laurent.
Comment ça va Ludivine?
Mais écoutez, très bien. Merci de m'accueillir.
On est ravis de vous avoir parce que on parle des grandes maisons, mais les restaurants, on va dire, plus ordinaires et qui pratiquent une cuisine bistronomique, comme c'est votre cas avec votre compagnon dans l'heure, eh bien aussi remettent sur le devant de la scène le métier du service en salle. Hein.
Oui, tout à fait. C'est important pour nous d'avoir une démarche autant culinaire qu'un service en salle qui est aussi cocooning et avec aussi des avantages, un petit peu de proximité avec les clients, etc.
Comment ça se présente?
C'est un tout.
Comment elle se traduit, cette proximité chez vous avec les clients?
Eh bien, tout d'abord, nous, on est une auberge, donc l'auberge de la Vallée, qui dit auberge, dit convivialité, accueil et chaleur. C'est vraiment ce qui nous définit. Donc, de l'arrivée de notre client jusqu'à son départ, on va en prendre soin. On va être là, on va l'accompagner, on va parler, on va faire passer des émotions qui sortent de la cuisine, les émotions que le chef met dans ses assiettes. Moi, je les retransmets en salle. S'il n'y a pas ce lien, le moment, il est différent.
Et qu'est-ce que vous faites concrètement? Alors, vous travaillez aussi au guéridon, comme Baudouin?
Tout à fait. On a des produits, donc on travaille au guéridon. On a travaillé pour la Saint-Sylvestre avec une omelette norvégienne individuelle qu'on a flambée à chaque table pour le dîner. En ce moment, on travaille donc depuis quelques temps avec la côte de bœuf cidrée. On est sur un produit qui est vraiment exceptionnel. Donc, on vient la présenter avant cuisson à nos clients. Et ensuite, on a une découpe en salle au guéridon, donc de ma part ou de la part de Ludovic qui m'accompagne en salle en apprentissage.
Qu'est-ce qu'on mange chez vous ce midi, Ludivine?
Alors, on peut manger les asperges vertes, un travail autour de la tome de Bresse, une tome locale. Et également le lard de la roche blanche, la roquette qui l'accompagne pour la gourmandise. On travaille aussi avec le poulpe. Là, on a des influences un petit peu plus provinciales. Le chef est du sud de la France. Donc, poulpe qui a été cuit pendant 10 heures à 70 degrés. Un mariage avec la patate douce, c'est très gourmand. Alors, en plat, bien sûr, la truite d'Assigny.
Ah oui, c'est une voisine, ça.
Oui, tout à fait. On est juste à côté. On a un très, très beau produit avec peu de gras, une chair qui est tendre et riche de saveur. C'est vraiment super.
On l'entend au son de sa voix, Baudouin Arnoux, vous qui avez 30 ans d'expérience, qu'elle est attentionnée et qu'elle aime raconter les choses et mettre en avant les produits aussi. C'est très important,
ça. C'est très important, oui.
Eh bien, merci Ludivine d'avoir été avec nous. L'Auberge de la Vallée, à Nassandre-sur-Risle, dans l'Eure. Ludivine Decorde qui était avec nous. Et bon service ce midi, chère Ludivine.
Merci beaucoup. Belle fin de journée. Et merci de mettre en avant les métiers de salle.
Eh bien, c'était important pour nous, absolument. L'éloge du service en salle ce samedi sur Europe. Alors maintenant, on va faire l'éloge de la crêpe Suzette avec vous, Baudouin. Vous avez été debout, il faut venir vous asseoir maintenant, il faut venir déguster, attention. Hein, parce que alors là, je le disais, c'est un chef-d'œuvre. Hein,
elle est délicieuse. Vous avez raison, la texture est parfaite, elle n'est pas trop molle, elle résiste légèrement. Puis cette sauce qui nappe avec l'équilibre, parce que c'est pas facile de trouver le bon équilibre. L'alcool, il faut qu'on sente, mais pas trop non plus.
Exactement.
C'est subtil, hein.
Ça fait partie des raisons pour lesquelles on aime aller au restaurant, parce que c'est un ballet aussi. On est un petit peu au théâtre avec ce qui se passe, avec ces gestes au guéridon, comme ça.
Hein. Ah oui, complètement. Moi, comme j'ai toujours dit, c'est un vieux maître d'hôtel qui m'avait appris ça, et c'est vrai qu'encore aujourd'hui, chaque table est une pièce de théâtre.
Merci, Baudouin Arnoux, d'être venu nous voir sur Europe 1 ce samedi. Le Taïwan, c'est rue Lamennais, à Paris, dans le 8e arrondissement. C'est l'heure de jouer avec notre bruit de cuisine sur Europe 1. Nous vous proposons aujourd'hui de gagner une cave à vin, la sommelière, la marque française qui accompagne depuis plus 30 ans les professionnels de la restauration, vous propose cette jolie cave ultra silencieuse. Bonjour Florence.
Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants.
Bonjour Florence, vous nous appelez d'où?
De Créances.
Oh, la capitale.
Dans la Manche.
La capitale de la carotte.
Voilà, carotte des sables et aussi les poireaux.
Et vous travaillez dans quoi?
Alors, dans la restauration sur l'île de Noirmoutier, j'ai fait des saisons surtout. Donc, en service.
Eh bien, on écoute le bruit de cuisine, chère Florence.
Ok.
Un bruit de saison. Ouais, c'est vrai que ça fait des frissons et de la chair de poule. Ça couine. Qu'est-ce qui couine alors, Florence?
Eh bien, pour moi, ce qui couine, c'est quand on épluche de la rhubarbe.
Ah, quand on retire les fils de la rhubarbe.
C'est ça,
alors,
c'est ça.
ce serait une rhubarbe en fin de saison qui a la peau très épaisse alors. Hein. Mais là, oui, la rhubarbe, oui, elle est jeune parce qu'elle sort seulement et elle a une peau très fine. Et même moi, en ce moment, pour tout vous dire, j'en ai dans mon potager, je retire même pas la peau. Non, c'est pas ça malheureusement, Florence.
C'est pas ça. Bon, tant
mais
pis.
Vous n'avez pas tout perdu, on vous envoie deux beaux livres. Marie Drucker, Bien manger pour être en forme, elle sera avec nous dans un instant au studio Coluche. Et vous allez voir qu'elle s'est intéressée à notre façon de manger. Et c'est très, très documenté. Il y a plein de recettes d'ailleurs. Et je vous envoie également Éloge du service en salle. C'est le livre qui nous a permis de construire le dossier qu'on vient de faire autour de ces beaux métiers de la salle et de la restauration. Merci Florence.
Très bien. Je vous remercie. Bonne émission.
Oui, et bonne cuisine ce samedi midi. Dans un instant, Emmanuel Rubin lui va se mettre à la peinture. Oui, parce que monsieur a regardé les tableaux, l'impressionnisme, et il se dit, tiens, qu'est-ce qu'ils mangeaient à cette époque? C'est vrai qu'ils aimaient peindre la table, hein?
Énormément.
Et oui, donc on va y revenir. Et Marie Drucker se rapproche. À tout de suite. Merci Baudouin.
Merci.
Et encore bravo pour cette crêpe. Hein.
Merci beaucoup.
De compète.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants, Laurent Mariette.
Merci d'être avec nous, nous sommes ensemble jusqu'à midi et demi avec mes bons vivants du jour, Emmanuel Rubin.
Oui, oui, présent.
Olivier Pouls.
Je remonte de la cave, j'arrive.
Bonne cuisine, chers auditeurs, si vous êtes en train de la faire, et je continue l'appel, Marion Sauveur.
Présente.
Bonjour.
Bonjour à
Marion.
Tous.
Toujours heureux de vous retrouver ici au studio Coluche. On fait le point avec vous, comme on aime le faire, hein, sur des sujets d'actualité qui concernent l'alimentation et la gastronomie. Et on fait le point avec vous aujourd'hui sur le plan du gouvernement, écoutez bien, pour faire rayonner la haute gastronomie française présentée cette semaine. Ça fait du bruit. Est-ce que c'est un gadget? Dites-nous tout. En quoi consiste ce plan?
Alors, l'objectif, c'est de fixer une stratégie pour positionner la France comme leader de la gastronomie dans le monde. Alors, j'ai épluché ce dossier d'une quinzaine de pages et le gouvernement développe trois axes. Le premier, c'est renforcer la promotion de la haute gastronomie en créant un réseau, par exemple, national des écoles de la gastronomie avec des animations dans les ambassades à l'étranger. Repérer, ça c'est le deuxième axe, et accompagner les talents de la gastronomie française en créant un grand centre national de la gastronomie, un peu comme Clairefontaine pour le football ou Marcoussis pour le rugby.
Alors
ça, c'est en France. Et préparer donc aux compétitions culinaires mondiales et aux grands événements de la gastronomie où parfois ben, les Français sont un peu absents. Et troisième et dernier axe, accompagner les entreprises du secteur à l'international avec un programme sur mesure de 6 à 8 mois pour soutenir le développement donc, de cette haute gastronomie à l'international, avec un jury qui va sélectionner des chefs, des restaurateurs qui vont vouloir se développer à l'international. Alors, l'objectif, c'est de choisir des destinations. La France a choisi certaines destinations, ce n'est pas n'importe où, c'est au Moyen-Orient et en Asie de l'Est. Alors, ces destinations-là, pourquoi? Simplement...
J'allais vous poser la question, pourquoi?
Et ben
pourquoi Dubaï?
Pourquoi Dubaï? Ben parce que, visiblement, ils s'intéressent beaucoup à notre gastronomie française et il n'y a pas beaucoup de restaurateurs qui vont s'implanter là-bas. Alors, j'ai un petit peu cherché. À Macao, on peut trouver, par exemple, le restaurant 3 étoiles de Joël Robuchon au Dôme de Julien Tongourian. Pareil à Hong Kong, Guillaume Galliot à Hong Kong. À Dubaï, il y a Yannick Aleno, Mathieu Vianney et Pierre Gagnère. Et puis en Arabie Saoudite, on a vu Alain Ducasse qui s'est installé pour un petit restaurant éphémère et qui a créé également son école. D'ailleurs, Alain Ducasse qui est l'un des chefs qui fait partie de ce jury.
Très investi, oui.
Voilà, comme la directrice générale de Caviari par exemple, ou l'une de vos collègues Emmanuel Rubin au Figaro qui font partie donc de ce jury. Objectif, ouvrir cette année une dizaine d'adresses dans ces destinations. Alors, on est loin des 5000 adresses qu'il y a françaises au Japon, par exemple.
Mais on retient aussi qu'ils veulent quand même faire des comment dirais-je, j'allais dire des poules, mais c'est pas un mot français, mais des collectifs comme ça de chefs, comme on fait pour le Bocuse d'Or, qui se prépare en travaillant justement avec la jeune génération.
Avec
aussi.
Ce Centre National de la Gastronomie, voilà. Effectivement.
C'est ça qu'on a retenu.
Est-ce que vous pensez que la gastronomie a perdu un peu de sa superbe aujourd'hui dans le monde ou pas?
Bah, la gastronomie française,
oui.
Elle n'a pas perdu sa place, c'est-à-dire qu'elle a longtemps été la première, voire la seule. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, elle doit partager ce pouvoir. Donc, elle est toujours parmi les premières, mais elle n'est plus la seule ni la première. Donc, c'est très bien qu'il y ait effectivement une manière de soft power, c'est-à-dire de diplomatie,
oui,
et que l'État s'en mêle. Mais moi, je ne suis pas terriblement inquiet. Vous savez, les Français aiment bien se faire peur. C'est bien de rester vigilant. Elle est aujourd'hui toujours parmi les plus puissantes. C'est simplement qu'aujourd'hui, effectivement, l'Espagne, l'Italie, le Japon ont leur mot à dire et leur plat à présenter.
Merci Marion
avec
pour
plaisir.
Ce plan de rayonnement de la haute gastronomie française. française. Emmanuel, tiens, puisque vous venez de prendre la parole, gardez-la. Vous célébrez aujourd'hui les 150 ans de l'impressionnisme, je le disais avant la pause. Et cette révolution de palette, vous nous la racontez, c'est ça que j'aime, par le petit bout de la fourchette.
Alors je vais quand même un peu cadrer d'abord, c'est normal, c'est de la peinture. Nous sommes en 1874 précisément. Une certaine exposition réunit 30 peintres. Nous sommes à Paris et ce rendez-vous-là, eh bien, il va très vite révéler la puissance d'un mouvement artistique qui, non content de s'opposer à l'art académique, va révéler, inventer une autre manière d'appréhender les couleurs, les formes, la lumière, autant dire notre vision du monde. Ces peintres s'appellent Cézanne, Degas, Monet, Pissarro, Renoir, Sisley. Avec eux, la peinture ne sera plus tout à fait la même, et puis notre regard tout aussi bien. Et dans leur toile, dans leur monde, eh bien la table, effectivement, est loin d'être absente.
Alors, les peintres impressionnistes aimaient manger autant que peindre la table, on peut dire ça ?
Alors, pour certains, c'est vrai. Le plus célèbre d'entre eux, peut-être Claude Monet, est un véritable cuisinier. J'ai pas dit gastronome, un cuisinier. D'ailleurs, chez lui, dans son jardin à Giverny, il va toute sa vie noter des carnets de cuisine qui, bien après sa mort, vont être publiés, on peut toujours les trouver.
Les œufs Orsini, moi, que j'ai fait à la télévision il n'y a pas longtemps, sont inspirés de Claude Monet.
C'est un livre épatant, je crois, chez Flammarion. Mais surtout, par sa nature même, eh bien, l'impressionnisme rejoint souvent les choses et les lieux de l'appétit. Pourquoi ? Parce que les peintres impressionnistes, ils vont quitter l'atelier. Ils vont partir comme cela, dehors, dans la vie, dans le réel, dans la ville, dans la nature, et sur les routes à Paris, vers Fontainebleau, vers Barbizon, au fil de la Seine, bien sûr, en Normandie. Et qu'est-ce qu'ils vont rencontrer ? Eh bien, des bistrots, des guinguettes, des restaurants. Et ils vont saisir tout ça, comme ils vont saisir des instants de table, les déjeuners, les repas, les après-dîners, les fameux pique-niques, les déjeuners sur l'herbe. Le plus célèbre d'entre eux, c'est le fameux déjeuner des canotiers, vous savez. Il est signé Renoir, c'est un chef-d'œuvre. C'est un instant saisi comme ça, de table.
Et certains des lieux qui les ont inspirés existent toujours, hein.
C'est ça qui est impressionnant, c'est qu'il y a une véritable route des impressionnistes, et cette route, elle est jonchée, jalonnée de bistrots, de restaurants. Alors, parmi eux, le plus célèbre, le Moulin de la Galette à Montmartre, saisi par Renoir en milieu du 19e siècle. Dans le 18e arrondissement, tout près, le restaurant La Bonne Franquette, toujours présent, on le voit dans l'étoile, aux environs de Paris, la Maison Fournaise.
Aux environs de Paris, vous êtes bien.
Eh bien là, on n'est pas loin.
Alors les titis.
Eh bien, on est sur l'île de Chatou, avec la Maison Fournaise. Là encore, c'est elle qui offre le cadre de ce fameux déjeuner des canotiers. Et puis encore, la guinguette sur l'île de la Jatte à Neuilly, l'Esturgeon à Poissy, le Coq à Bougival, à Auvers-sur-Oise.
On va pas tous les faire, mais
aussi
juste
à Giverny, juste avant la Maison Baudry.
Voilà, la Maison Baudry à Giverny, mais une initiative gourmande que vous vouliez saluer dans le cadre de cette célébration.
Eh bien justement, jusqu'au 22 septembre prochain, 150 tables et boutiques de bouche normandes vont proposer des créations culinaires inspirées des œuvres impressionnistes, parmi elles celle du célèbre bistrot Gilles à Rouen, qui a composé une pavlova hommage à la toile d'Édouard Manet, le panier aux fruits.
Oh, la boucle est bouclée, c'est beau.
Superbe cette circuit-là.
C'est beau, ça, on a envie d'y aller. C'est comme refaire les scènes de films, vous savez, qu'on a
mythique,
vu et
d'y retourner,
c'est pareil.
Ouais.
Merci Emmanuel Rubin. Ne bougez pas, dans un instant, Marie Drucker nous rejoint.
Ce midi, on a mangé du saumon avec des épinards à la crème.
La Goyère, c'est une tourte avec un fond de maroilles.
Europe 1, 11h, midi 30, la table des bons vivants.
Eh bien, c'est génial le maroilles. Non, ça sent pas fort. Ça sent bon. Ah, alors là, attention, je dirais qu'il y a autant de recettes de quiche Lorraine qu'il y a de grand-mère.
Laurent Mariotte.
Heureux de vous retrouver à table comme tous les samedis de 11h à midi et demi. Et chers auditeurs d'Europe 1, merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous mettre à table avec nous chaque samedi et ça nous fait plaisir. Les audiences sont très bonnes, comme on dit. Toujours avec notre monsieur vin, Olivier Pouls.
Oui, je suis là.
Et notre monsieur critique gastronomique, monsieur Emmanuel Rubin. Ça va, Emmanuel ?
Ça va, enfin le vin, vous allez voir, quelque chose.
Oui, il a sorti un vin fort en alcool.
J'aurais
on va parler
attaquer,
ça.
Là.
C'est l'heure d'accueillir notre invitée, journaliste, réalisatrice de documentaires, productrice, scénariste. On la retrouve dans Infrarouge et dans Au bout de l'enquête sur France 2. Elle aime aussi jouer à Gwyneth Paltrow en écrivant des livres qui nous aident à bien manger pour être en forme. Elle aime les crêpes bretonnes, la feta et la choucroute.
C'est vrai.
Marie Drucker est notre invitée. Bonjour Marie.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Bonjour.
Merci d'être là. Vous venez nous voir avec un beau livre, Bien manger pour être en forme, chez Michel Lafon. Alors on pourrait se dire Marie Drucker, Lambert, qui écrit un livre de cuisine, mais quel rapport avec la choucroute, puisqu'on en parlait justement.
Et c'est pas... je pédale dedans.
Et il y a un vrai rapport, parce que vous étiez déjà venu à cette table, et l'alimentation fait vraiment partie de vos priorités et de vos, comment dirais-je, de vos chapitres préférés hein, dans la vie.
Ah oui, parce que j'ai un objectif, c'est de me priver de rien.
C'est ça.
Mais comme je n'ai plus 35 ans, je me suis dit, il faut quand même réfléchir à cette question de comment continuer à se faire plaisir, à goûter les merveilleux produits que nous offre notre terre, notamment, sans se priver, et puis en faisant du bien, si possible, à notre organisme de femme de plus de 40 ans.
Oui, vous le dites.
Je ne savais pas s'il fallait dire plus de 40 ans, moins de 50.
Non, c'est bien
bon.
Plus de 40, c'est bien plus de 40. Et comment dirais-je, vous en parlez du rapport à l'âge et justement à notre façon de nous alimenter en fonction de notre âge, et c'est très très intéressant. Et vous êtes entouré, il faut le dire, pour ce livre, de spécialistes, des nutritionnistes, des médecins. Mmh. Il y a une liste de remerciements de médecins à la fin qui vous ont aidé à préparer ce livre aussi.
Oui, j'ai travaillé avec une docteure en biochimie alimentaire et digestive. J'ai travaillé avec un généraliste qui est aussi homéopathe et psychanalyste, parce que la nourriture est aussi et l'alimentation souvent hautement question
cérébrale.
De psychologie.
Ouais. Dites-moi ce que vous mangez.
Voilà.
Vous êtes. Hein.
Et puis les blocages. Il y a des blocages alimentaires. Et puis avec une dermatologue aussi, parce que ce qui fait du bien à l'intérieur fait du bien à l'extérieur. C'était pas une pub, ça, d'ailleurs.
C'était une pub. Oui, il y a eu. Quelle place tient la cuisine dans votre vie, alors, Marie Drucker ?
Alors, j'ai fait aussi ce livre pour celles et ceux qui, comme moi, n'ont pas une passion pour l'action de faire la cuisine, mais adorent manger.
C'est ce que vous dites, oui.
Ouais, et en plus, ne sont pas. Moi, je ne suis pas du tout une cuisinière, contrairement à tous mes copains et copines qui m'ont très gentiment prêté leurs recettes pour l'élaboration de ce livre, qui, eux, cuisinent très, très bien et avec plaisir, ce qui n'est pas mon cas. Mais... Donc, c'est toujours l'idée de décomplexer les autres.
Exactement. Et des gestes et des recettes simples, terrine de courgettes, feta et menthe, velouté froid de betterave, apéro sain et coloré. Vous voyez, vous pourrez vous inviter, monsieur Pouls.
Oui.
Il y a des desserts, évidemment, vous parlez du sel, irrésistible gâteau au chocolat et à la crème de marron, ça s'appelle bien manger, pour être en forme. Et c'est l'heure de notre plat du jour, alors attention, on a invité un jeune chef qui est avec nous aujourd'hui, qui s'appelle Nathan Sebag. Bonjour Nathan.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Vous êtes l'un des jeunes chefs de l'Arpaon, rue Montcalm, à Paris, dans le 18e arrondissement. Alors avant de nous dire ce que vous avez cuisiné pour Marie Drucker, je vais vous demander, Marie, votre goût de la semaine. Quel est le goût qui a marqué votre semaine ?
Ah, alors c'est terrible parce que c'est un goût... j'ai goûté, vous connaissez sans doute ici le grand chef Jean-André Charial de Lousteau de Beaumanière.
Glenville
et le chef pâtissier qui s'appelle Brandon Dehan. Eh bien, ils nous ont concocté une ligne qu'on trouve en ligne d'ailleurs sur internet de chocolat, et je me suis enfilé hier soir une boîte entière de guimauve enrobée de chocolat noir absolument à tomber par terre. Parce que je l'explique dans le livre, hein, le sucre vaut mieux attendre le soir. J'ai lu mon livre, donc hier soir j'ai mangé du sucre.
Le chocolat, vous le dites d'ailleurs, le chocolat le soir c'est excellent. Hein.
Oui, encore faut-il qu'il soit noir, etc. Mais donc ça c'est vraiment le goût de la semaine. Je vous dis, hier soir je ne pouvais plus m'arrêter tellement ces chocolats sont absolument délicieux. Puis bon, moi j'ai toute une histoire avec familiale, avec la Provence. Et avec cet établissement, je les embrasse tous, et notamment Jean-André.
Alors Nathan Sebag, vous qui êtes à Paris dans un restaurant qui vient d'ouvrir, Arpaon, ça a ouvert le mois dernier avec trois copains, c'est ça, vous êtes associés ?
Tout à fait.
Vous avez votre CAP cuisine plus CAP pâtisserie, vous avez travaillé chez Candide, qui est un bistrot à Paris dans le 10e arrondissement. Pourquoi ça s'appelle Arpaon, votre restaurant ?
C'était en lien en fait finalement avec le nom de la rue, le duc de Montcalm qui possédait le domaine de Saint-Julien d'Arpaon, et vu qu'on est dans cette rue.
Ça, le duc de Montcalm qui avait un beau domaine.
Ça pose. Hein.
Que trouve-t-on à la carte de votre restaurant hein, c'est esprit moderne et bistrot. Oui. Vous pouvez déguster, mais on va dire de quoi il s'agit dans un instant.
C'est un bistrot français avec des petits twists méditerranéens et de cuisine du monde avec lesquels on aime s'amuser, s'inspirer de certains totems de certains pays et s'amuser avec finalement.
Bah, démonstration avec le plat du jour, racontez-nous ce que vous avez fait alors.
Tout à fait, alors ça c'est un des plats signature un peu du restaurant, c'est un vol au vent, donc un classique français avec un tagine de veau aux pruneaux et aux amandes.
C'est
marocain.
Super mal.
Quelle belle idée. Mais le vol au vent qui accueille normalement une préparation crémée hein, de riz de veau ou de volaille. Et là, Emmanuel.
Oui, mais la tagine, c'est compoté, c'est gourmand.
Exactement.
Alors là, j'aime pas du tout l'expression du plat signature. Mais alors, pour une fois, voilà des petits malins de la bistrotte qui se sont dit le feuilletage revient.
on l'aime. Comment on pourrait le twister? Ils ont bien réfléchi. Et effectivement, la tagine lui va à la perfection. C'est, à mon avis, l'un des plats qui va cartonner ce printemps. Oh, dans votre restaurant, il va être copié celui-là.
Tagine de veau, hein?
Tagine de veau, oui, c'est un morceau d'épaule de veau qui a été confit pendant 6-7 heures. Avec des oignons et compotés, quoi.
Donc, vous l'avez confite comment, cette belle pièce de veau?
On la marque d'abord, et après on va la faire...
Marquer, c'est saisir, hein,
saisir, colorer. Oui, voilà. Tout à fait. Et qu'on va après rajouter des oignons, des épices, des pruneaux, des citrons confits, et qui va cuire à petit feu pendant 6-7 heures, tout doucement, et surtout pas beaucoup d'eau.
Vous vous régalez, hein, Marie Drucker?
On peut pas parler. Non, c'est à tomber.
Ça, vous savez, c'est le genre de recette qui va vous piquer un certain LM.
C'est possible.
Ouais. Ça a tombé par terre, parce qu'en plus, le feuilleté, je parle sous votre contrôle, cher ami, le feuilleté est très léger, et pas... on sent toutes les saveurs du confit, du confisage, de la confiture.
Du confit, c'est bien.
C'est absolument délicieux, ouais. Et tout le monde s'en fiche, mais je n'aime pas non plus l'expression plat signature.
Ouais. Oui, c'est votre plat, c'est une belle création. Quels sont les secrets pour réussir cette recette, vous diriez alors?
La cuisson quand même du feuilletage pour que ça pousse bien droit. Pour les auditeurs ou auditrices, si vous voulez un petit conseil tout simple, c'est au four, vous prenez une pâte feuilletée, et vous mettez à deux niveaux au-dessus en fait une plaque qui va permettre en fait à la cuisson du vol-au-vent de s'arrêter et de pas tomber ni à gauche ni à droite. Et c'est vraiment ce qui fait la différence pour que ça pousse bien droit et avoir de la place en fait pour mettre.
Je le dis toujours.
Malin.
Une pâte feuilletée, voilà, qu'on peut acheter dans le commerce pur beurre ou même surgelée. Je le dis régulièrement à cette table. Hein.
Bien sûr. Ou chez votre artisan boulanger.
Aussi, voilà.
On lui en demande un morceau, il le vend. Hein.
Bien sûr, oui, il faut lui demander. Il aime bien qu'on le prévienne un petit peu. Quand
et
même.
La cuisson des petits pois.
C'est un très beau plat. Nathan Sebag, l'Arpaon, rue Montcalm. Vous avez vu, pour une fois qu'on a découvert un restaurant avant vous, Emmanuel
tout.
Rubin.
Pas du tout.
Vous le connaissez?
J'y suis allé, je connais.
Oh mince alors.
Et je salue. Et je salue Nathan Sebag et sa bande, parce qu'avec eux, ils font revivre un quartier qui est le 18e.
Oui.
Aujourd'hui, c'est l'une des plus belles scènes gastronomiques en matière de restaurant, cet Arpaon et le 18e de Paname.
Vous parlez de l'importance des légumes verts hein, dans votre livre aussi, Marie Drucker, parce que c'est ça que j'aime avec ce que vous racontez dans ce livre, c'est qu'il faut suivre les saisons. Ça, c'est très important, on le dit régulièrement, mais... Vous faites, vous, l'apologie d'une cuisine vraiment très simple avec, je vous le disais, des gestes faciles à reproduire à la maison et des légumes qui vont permettre de varier notre alimentation. Et les légumes verts sont très, très importants.
Ils sont très importants. Alors, pour ce que vous disiez sur les saisons, oui, parce que la nature est tellement bien faite qu'elle nous prodigue, en fait, ces bons produits au moment où on en a besoin, notamment l'automne et l'hiver. Bah, ça tombe bien parce que les légumes et les... légumineuses, etc., dont on a besoin, notamment pour protéger notre immunité, notre sphère ORL, comme on dit.
Oh, oui.
Donc tout ça, c'est formidable. Et attention, d'après vous, Laurent,
oui.
Le petit pois est-il un légume vert?
Aïe, ça sent le
non.
piège.
Non,
c'est une légumineuse, le petit pois.
Ce sont des petits féculents, en fait. Oui. Voilà. Et ce ne sont pas des légumes verts, comme les épinards, comme les haricots verts. Le haricot vert, c'est une merveille, c'est un médicament en soi.
Je
pense qu'il
ne
faut pas faire de jeûne.
Et des fibres.
Voilà. Mais par exemple, si vous avez fait des excès, faites-vous un bon plat de haricots verts, vous mettez un peu de parmesan dessus, etc. Ça repose votre système digestif et vos intestins. Vous avez quand même le ventre plein, donc votre cerveau ne se dit pas « Ah, elle m'a privé, le coup d'après, je vais tout stocker, si possible, dans les cuisses et dans les fesses. »
Voilà.
Donc,
oui.
les légumes verts, c'est fantastique.
Vous voyez qu'elle a étudié le sujet. Bien manger pour être en forme chez Michel Lafon. On continue d'en parler. Pour l'instant, c'est l'heure de jouer avec notre bruit de cuisine. Nous vous offrons une cave à vin. La Sommelière, la marque française qui accompagne depuis plus de 30 ans les professionnels de la restauration. Et nous sommes avec Fabienne au téléphone. Bonjour Fabienne.
Bonjour Laurent, bonjour les bons vivants.
Bonjour. Vous nous appelez d'où Fabienne?
De Bordeaux.
Et qu'est-ce que vous faites dans la vie?
Je suis infirmière anesthésiste.
Ah, mais là, vous êtes bien réveillée.
Oui, je viens de me réveiller d'ailleurs, puisque je travaillais cette nuit.
Ah, ben voilà, le métier de la nuit. Alors ça, vous en parlez aussi dans votre livre, que quand on manque de sommeil, effectivement, on a besoin de récupérer en mangeant comme il faut. J'espère que c'est votre cas, Fabienne.
J'essaie.
Vous essayez. On écoute le bruit de cuisine.
J'espère qu'il va tomber parce que j'en peux plus de l'entendre celui-là.
Ça couine, c'est du végétal. De quoi s'agit-il?
Ah,
Alors, pour moi, c'est le bruit des feuilles d'un chou paumé blanc que l'on sépare.
Ah oui, mais on est à la fin de la période des choux. Mais ça, c'est pas loin. Alors là, vous vous êtes vraiment rapproché du sujet. Vous n'avez pas tout perdu. Vous savez ce qu'on fait ? Je vous envoie le livre de Marie Drucker, « Bien manger pour être en forme ». Et je vous envoie aussi mon livre « Je cuisine avec trois ingrédients ». Comme ça, vous pourrez cuisiner facilement après vos gardes de nuit, ma chère Fabienne. Entendu ?
Très bien. Oui, merci.
On vous embrasse. Merci pour votre fidélité.
Merci.
Si vous avez trouvé, chers auditeurs, vous jouez avec nous la semaine prochaine. Envoyez un SMS avec le mot « cuisine » au 7 39 21. Ne bougez pas. On revient dans un instant avec notre chef du jour, avec Marie Drucker, et puis avec le vin de Monsieur Pouls et le grill des bons vivants. A tout de suite.
11h30 sur Europe 1, la table des bons vivants. Laurent Mariette.
Merci d'être des nôtres avec Emmanuel Rubin, Olivier Pouls et le chef du jour Nathan Sebag qui a fait un très beau plat pour Marie Drucker, un vol au vent, mais attention à l'intérieur, ni de riz de veau ni de crête de coq, un beau tagine de veau au petit pois. Qu'est-ce qu'on boit avec ça, monsieur Pouls, tiens ?
Eh bien, il nous avait suggéré, et c'est vrai que c'est pas idiot du tout, de faire un petit accord, un clin d'œil sudiste avec un Cossière de Nîmes, puisqu'on est dans le sud avec le tagine, et entre les deux, entre Paris et le Maghreb, eh bien, on a les Cossières de Nîmes, et c'est vrai que ça a ce côté un peu chaleureux, et le côté confit, ça marche très bien.
Ça marche très bien. Bien manger pour être en forme chez Michel Lafon, c'est votre nouveau livre, Marie Drucker. Alors, on l'a entendu, c'est pas un livre gadget, c'est pas un livre de quelqu'un qui passe à la télé pour donner comme ça des conseils sans rien y connaître. Vous connaissez très bien le sujet, vous êtes entouré de spécialistes, je le disais. Et ce que j'aime en plus, c'est que vous allez un petit peu à l'encontre des idées reçues dans votre livre. Vous ne suivez pas les modes, justement, et dans Bien manger pour être en forme, vous revenez sur la mode du cru. Alors, c'est bon pour notre organisme, le cru ?
Alors, oui et non.
Voilà.
C'est comme pour tout, on ne peut pas passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire, on ne peut pas passer de la blanquette pendant les mois d'hiver, du jour au lendemain, ne manger que du cru. L'idéal, d'ailleurs, pour l'organisme, c'est d'avoir... dans les repas d'été, par exemple, un peu de cru, un peu de cuit, un peu de légumes crus.
Ça, c'est ce que toutes nos grand-mères racontaient
mais oui,
il y a
mais
plusieurs
vrai.
Décennies. Mais bien sûr.
Mais de passer du tout cuit au tout cru, de ne manger que des salades pendant tout l'été, ça n'a aucun sens.
Et le système digestif comprend pas très bien ce qui lui arrive.
Dans ce livre, Marie Drucker, vous faites vos coming out aussi, si je puis dire, parce que vous révélez être une grande consommatrice d'herbes. On s'attendait pas à ça de vous.
Hein, alors moi je l'avais pas vu venir. Oui, mettez des herbes, pas de l'herbe, mettez des herbes absolument partout. Oui, je pense que. Alors moi je mange pas d'ail. Je pense en plus que les herbes, ça permet de la couleur, ça permet des goûts différents, c'est-à-dire d'agrémenter les mêmes plats mais de façon différente.
C'est magique, les herbes sont magiques.
Et ça apporte plein de choses, bien sûr.
Et le vin.
Alors ça, comme disent mes copines, comment on peut autant manger et aussi peu boire,
c'est
quand
ça.
Elles me parlent de moi. Moi, je ne bois pas d'alcool, je n'en ai jamais bu, mais je ne veux surtout pas en dégoûter les autres. Je suis passée à côté de cette éducation.
C'est incroyable,
voilà.
Mais il n'est jamais trop tard, parce que justement, je vous présente Olivier Pouls.
Si je réussissais à vous convaincre et vous savez, aujourd'hui, là...
Il revient d'un stage immersif exprès pour vous, Marie Drucker et chers auditeurs d'Europe 1. Vous étiez à Bordeaux, vous avez dégusté les primeurs du millésime 2023. Alors rappelez-nous déjà en deux mots, ce que sont les primeurs ?
Alors, tout d'abord, c'est une tradition qui est exclusivement bordelaise et qui consiste donc à faire déguster aux professionnels les vins du dernier millésime, en l'occurrence, vous l'avez dit, 2023, avant leur mise sur le marché, afin que tout ce petit monde puisse se faire une idée de sa qualité et puisse ensuite guider les propriétaires dans l'établissement des prix. Alors, les particuliers, eux, ensuite, pourront acheter ces vins qui seront livrés dans deux ans à des prix qui sont, en théorie, plus intéressants.
Alors, que vaut ce millésime ? Et attention, chaque fois que je vous pose la question tous les ans, vous me dites « Oh, il est formidable celui-ci
!» Malheureusement, oui, il est bon comme les autres, j'ai envie de dire. Non, il faut être honnête, l'évolution climatique, les moyens, les connaissances et techniques, la viticulture, aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de mauvaises années comme on a pu les connaître dans les années 80 ou 90, où il y avait deux ou trois grands millésimes par décennie, tout le monde s'emballait, et puis tout le reste, c'était pas terrible. Aujourd'hui, sauf 2013, ça date quand même il y a une dizaine d'années, on peut dire que tous les millésimes depuis une bonne quinzaine d'années sont plutôt bons.
On achète ou pas alors ?
Pas forcément en primeur, surtout que le marché est plein de bonnes affaires disponibles, mais on achète du Bordeaux quand même. Et je suis content de voir que mon ami Emmanuel Rubin est ravi de découvrir ce Bordeaux qui s'appelle Madame de Beaucaillou, un Bordeaux à moins de 20 euros, millésime 2019. Franchement, il n'y a rien à redire.
Avec modération et avec plaisir. Merci Olivier Pouls. Et on vous retrouve demain dans la matinale sur Europe 1. Marie Drucker, c'est l'heure de passer sur le grill des bons vivants. Quel est le goût de votre enfance, chère Marie?
Je dirais l'escalope panée de... Ma grand-mère était autrichienne, l'escalope panée qu'elle nous faisait...
À schnitzel?
Oui, je pense que c'était en plus une recette. Elle nous faisait ça et nous faisait des knödel aussi, qui sont des boulettes de pain azyme dans du bouillon, voilà, de la cuisine d'Europe de l'Est, Europe centrale, de la cuisine yiddish. Voilà.
Votre adresse secrète?
Mon adresse secrète... peut-être celle du chef Nathan Sebak que je découvre aujourd'hui. Non, moi ce que j'aime, et je trouve qu'il n'y en a pas beaucoup, mais j'y connais pas grand-chose, le rêve pour moi, c'est un bon bistrot où on mange simplement de bons produits dans une ambiance agréable et qu'on ne se coupe pas un bras au moment de l'addition.
Voilà. C'est ça.
Et ça, il n'y en a pas...
L'Arpaon, voilà.
Voilà. Mais j'ai entendu maintenant que le 18e était un quartier
qui vient revivre. Il y avait toute une jeunesse qui me
et dans l'heure, tout à l'heure, nous étions avec une jeune aubergiste du restaurant, avec l'auberge de la Vallée, à Nassandre, où elle avait une formule autour de 30 euros, effectivement, avec une vraie prestation de service en salle.
Mais j'aime bien chez Marcel, par exemple, rue Stanislas, à Paris, près de Montparnasse.
Excellent.
Ça vous va, ça, Emmanuel?
Ça nous va.
Il a une annexe, en plus.
Votre plus grand succès en cuisine, Marie Drucker?
Alors, aucun.
Mais si, vous vous faites du mal, il y a des recettes.
Meilleure réponse.
Alors, succès.
Ne dites pas ça, dans votre livre, il y a plein de recettes.
Moi aussi, j'ai mes plats signature, entre guillemets.
Voilà.
En fait, il faut avoir quelques bests comme ça qu'on sait réussir. Mais par exemple,
c'est quoi vos hits?
Mais vous n'imaginez pas ma joie à chaque fois que je fais une blanquette, parce que je la réussis. Et je pense que je peux me la faire pour moi toute seule, et je suis tellement contente de la réussir. Donc voilà, je fais de la blanquette, je réussis à faire aimer à tous les adultes qui gardent des souvenirs épouvantable des endives au jambon de leur enfance. J'arrive à leur faire aimer ça parce que j'ai une recette très particulière avec de la crème, avec du fromage, mais pas de béchamel.
Ah.
Voilà, donc c'est très léger et très bon.
Et le mot de la fin, FIM?
Le mot de la fin, à table, vite la blanquette va refroidir, non?
Et le tagine de veau, vous voyez, c'est un cousin de la blanquette.
Il n'a pas refroidi, il est fini. Hein.
C'est un cousin de la blanquette, ce tagine de veau au petit pois.
Qui était à tomber, vraiment.
Je vois que vous avez fini votre assiette, Marie Drucker. Merci d'être venue, Marie.
Merci beaucoup, Laurent. Merci à tous.
C'est un plaisir. Marie Drucker, bien manger pour être en forme, et je peux vous dire qu'elle est en forme. C'est paru chez Michel Lafon. Non, mais vous êtes en pleine forme, ça fait plaisir, justement.
Mais merci, mais c'est le week-end, c'est l'heure du déjeuner, bon.
Et merci Nathan Sebag d'être venu nous régaler avec ce beau vol au vent, justement, garni d'un beau tagine de veau au petit pois. Salut Emmanuel Rubin.
Moi, vous ne me dites pas que je suis en forme.
Si, vous êtes très en forme. Salut Olivier Pouls, merci à ma fine équipe de m'avoir aidé à préparer cette émission. Agnès Vaudin à la programmation, Lucie Lescourou à la rédaction en chef avec Marion Sauveur et Anthony Da Silva. Et puis un petit coucou à notre camarade Loïc Vimard qui se repose. On pense bien à lui et merci à Nicolas Baudin à la réalisation.
Europe 1, 11h30, la table des bons vivants.
Ainsi s'achèvent nos programmes de nuit. Il est bientôt 6h. Vous avez rendez-vous dans un instant avec Cédric Chasseur ce matin, en lieu et place de Lénaïque Monnier. Mais toute l'équipe d'Europe 1 Matin Week-end est là, évidemment. Merci d'avoir choisi Europe 1 pour vous accompagner, pour vous informer. Et c'est sur un titre de Joseph Kamel et Julien Doré que je vous souhaite un beau dimanche.
Assis sur le trottoir, la soirée n'est pas belle. Il est sûrement trop tard pour qu'elle prenne mon appel. Je laisserai un message pour avoir des nouvelles. Elle l'écoutera tout bas et le gardera pour elle. Cette nuit je suis dans ma vie, elle en est tellement loin. Ses yeux rivés sur lui et sa peau sous ses mains. Assis sur le trottoir, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui verra son réveil. Si tu savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau. Son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Assise en face de moi, elle me regarde à peine. Quelque chose dans sa voix sonne comme un cœur qui saigne. Elle reçoit ce message qui soudain la rembelle. La lumière de l'écran, le sourire qu'il révèle. Cette nuit elle pense à lui, elle dit qu'elle n'y peut rien. Je me bats contre un souvenir en lui tenant la main. Assise en face de moi, c'est plus du tout pareil. Ce soir j'envie celui qui lui manque au réveil. Si tu savais comme c'est beau.
tu voyais comme c'est beau. J'ai vu son reflet dans l'eau. Si tu savais comme c'est beau. Elle a laissé son cœur entre nous. Entre nous et le reste. Elle a laissé son cœur à genoux. Sur le sol des promesses. Elle a laissé son cœur entre nous. Elle nous laisse le pire et le reste elle s'en fout. Si tu savais comme c'est faux. Savais comme c'est beau. Si tu voyais comme c'est beau.
Beau sur Europe 1, le duo Joseph Kamel, Julien Doré. 6h approche, il est donc temps de retrouver Cédric Chasseur pour Europe 1 Matin Weekend.
Europe 1.
Et oui, on est là, bonjour à tous, bon réveil à l'écoute d'Europe 1, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle matinale. Nous sommes ensemble jusqu'à 9h, nous sommes le dimanche 21 avril, c'est le 112e jour de l'année. Bonjour Anthony Kazmarek.
Bonjour Cédric, bonjour à tous, 112e jour déjà,
oui.
Que ça passe vite.
D'habitude c'est 111e, mais nous sommes une année bissextile cette année,
ouais,
donc
ça.
Vous voyez qu'on a pris un petit jour d'avance. Tout va bien.
Oui, un petit plaid ne serait pas de refus dans ce studio.
Arrêtez de nous parler de froid ça tous les matins, c'est pas possible. On peut espérer quand même quelque chose de positif
aujourd'hui. Ça va se radoucir à partir de la fin de semaine. Aujourd'hui, non. Hein. Enfin, vous avez du soleil à l'ouest et au sud encore, évidemment.
Bon, les prévisions météo, évidemment, à chaque fin de journal, vous en avez l'habitude. Nos rendez-vous aujourd'hui, 7h-20, l'entretien de Philippe Legrand, une date, une histoire avec l'auteur de best-seller Isabelle Pacioni. 8h10, l'invité actu, à 96 jours maintenant de l'ouverture des Jeux Olympiques, la boxeuse Estelle Mosley. Mais